Bonsoir. Arrivé ce jeudi matin à Goma, au Nord Kivu, du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale. Selon Ban Ki-moon, l'objet de sa visite est de soutenir la matérialisation de l'accord de paix signé à Addis Abeba. Pour sa part, la Banque mondiale a promis $1 milliard pour le développement de la région de Grand Lac. Comment analyser cette visite conjointe? Pour en parler, je reçois dans cette émission Alain André Atundu, cadre de la majorité. Monsieur Atundu, bonsoir. Honorable Serge Mayamba, député de l'opposition. Honorable, bonsoir.
Bonsoir.
Et professeur Philippe Bioya, politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le secrétaire général des Nations Unies et le président de la Banque mondiale ont effectué ce mercredi une visite de travail de plus de 2 heures à Goma. Ils étaient en route vers Kigali au Rwanda. Ban Ki-moon et Jim Yong Kim sont dans une mission conjointe visant la mise en œuvre de l'accord cadre du 24 février dernier à Addis Abeba, appuyé par la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU, base du nouveau mandat de la MONUSCO. Denise Lukeso revient sur ces cas. C'était le bref séjour de Ban Ki-moon à Goma.
En votant la résolution 2098, les Nations Unies sont en mesure de redresser la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. La brigade de la force d'intervention dispose d'un mandat particulier visant à imposer la paix dans l'est de la RDC. C'est en tout cas ce qu'a dit le secrétaire général de l'ONU lors du point de presse ayant clôturé son bref séjour à Goma.
Le mandat est particulier parce qu'il veut imposer la paix lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire avoir une approche proactive vis-à-vis de la paix. C'est la raison pour laquelle nous avons un équipement robuste, des troupes très bien formées de ces quelques 3000 soldats. Et je crois qu'avec ces troupes, nous serons en mesure de redresser la situation dans la région.
Mais le secrétaire général de l'ONU rappelle que la responsabilité première de maintenir la paix et la stabilité dans l'est de la RDC incombe d'abord au gouvernement congolais, car, dit-il, la communauté international ne vient qu'en appui à notre pays. Goma, Denise Louquet, sur Radio Capi.
Je suis ici pour exprimer notre solidarité avec la population de la RDC et pour encourager le peuple congolais à ne plus renoncer à l'espoir. Déclaration du secrétaire général des Nations Unies dans une interview exclusive accordée à Radio Capi à Kinshasa avant de s'envoler pour Goma. Ban Ki-moon affirme que le but de sa visite effectuée conjointement avec le président de la Banque mondiale en RDC au Rwanda et en Ouganda et de soutenir la matérialisation de l'accord de paix signé à Addis Abeba. On l'écoute au micro d'Anna Irung.
Je suis ici pour exprimer notre solidarité avec la population de la République démocratique du Congo. Je suis aussi ici pour l'encourager à ne pas renoncer à l'espoir. L'objectif de ma visite conjointe avec le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, en République démocratique du Congo, au Rwanda et en Ouganda, est de soutenir la mise en œuvre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région qui a été signée à Addis Ababa le 24 février par ces 3 pays et 8 autres. L'objectif est aussi de montrer les bénéfices de cet accord pour la population en termes de paix. Le 26 mai, je vais convoquer une réunion pour évaluer la situation selon l'accord cadre de la paix, sécurité et coopération en RDC avec mon envoyé spécial Madame Mary Robinson et mon représentant spécial Monsieur Miss.
Voilà, c'était le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. André Alain Atundu, vous êtes ancien ambassadeur au Rwanda et diplomate à Paris. Vous êtes cadre de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République, CDR. Comment vous analysez cette visite conjointe du secrétaire général des Nations Unies et du président de la Banque mondiale?
Je crois qu'on ne saurait mieux l'expliquer que eux-mêmes. Il y a deux jours, ils ont produit un papier qui est sorti dans le journal Le Phare, tous les deux éminents hôtes, et dans lequel ils ont dit en gros qu'ils venaient ici dans le cadre de l'accord cadre et voir comment réaliser cela. Mais cela dépend essentiellement de nos dirigeants. La paix, la stabilité, la sécurité et le développement de notre sous-région dépendent de nos dirigeants. Eux, ils viennent pour nous accompagner. Ils viennent exprimer la volonté de la communauté internationale de nous accompagner en amenant la caution politique et diplomatique et la caution financière. $1 milliard, bon.
Pour toute la région des Grands Lacs, est-ce que c'est suffisant?
Oui, on ne sait pas pour combien de temps, est-ce que ça sera libéré en une année, et ce sera pourquoi? Ce seront pour des projets intégrés.
Ça sera pour des projets, comme le président de la Banque mondiale.
Des projets intégrés ou des projets nationaux. Donc, il faudrait voir les modalités pratiques, et voilà, il faut espérer. En tout cas, c'est un message fort, en direction de l'opinion nationale, comme l'a dit le secrétaire général, pour que le peuple congolais, la population congolaise, sente qu'elle n'est pas seule dans cette aventure ou cette mésaventure et qu'elle peut compter.
Mais c'est la population congolaise qui vit toutes ces atrocités.
Non, c'est pourquoi je dis qu'elle ne se sente pas seule dans cette mésaventure. N'est-ce pas? La population congolaise, c'est tous les Congolais. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous ne vous y trouvez pas que vous n'avez pas de la peine. N'est-ce pas? Donc, il vient nous rassurer en réalité, contrairement à l'opinion généralement répandue, que les résolutions des Nations Unies sont des propos creux, les résolutions des Nations Unies sont des propos diplomatiques. Alors, il vient avec le bâton et la carotte.
Et vous pensez que la présence de ces deux personnalités pourrait changer quelque chose sur le terrain?
Donc, sur le plan moral, n'est-ce pas? Sur le terrain, ça va donner à réfléchir aux uns et aux autres, n'est-ce pas? Le M23 a tenté de faire un coup, n'est-ce pas, en faisant une pression sur la ville de Goma. Malheureusement pour lui, Man lui a pris parce que il a été contenu et repoussé par les FRDC. Et donc, il voulait le faire pour montrer au secrétaire général qu'ils étaient là, qu'ils étaient décidés à vendre cher leur peau. Mais c'est soit la politique d'Autriche qu'ils font, c'est soit la fuite en avant. Vous avez suivi certainement le responsable de l'Union africaine qui a dit qu'il trouvait maladroit de la part du M23 de prétendre résister à la communauté internationale. Donc je pense que ce sont des gesticulations, moi je dirais même comme des spasmes qui précèdent la mort.
Mais on sait que ce n'est pas la première fois que des grandes personnalités comme Ban Ki-moon se rendent à Goma pour voir un peu la situation sur le terrain. Mais apparemment, ça ne change pas.
Non, c'est la première fois qu'ils viennent tous les deux. Celui qui a l'autorité morale sur les relations internationales du monde et celui qui a la caisse pour résoudre un certain nombre de problèmes. Vous savez, la paix durable passe par l'amélioration de la situation économique. Alors, ils ont amené toutes les conditions. C'est pour cela que je dis, cela dépend de nos dirigeants de ne pas perdre de temps à se chamailler, mais de se concerter par des projets intégrés. Par exemple, réhabiliter le projet Corridor Nord, la CPGL, le remettre au goût du jour, la CIRGL, etc. Des projets communautaires.
Alors, on va prendre pour vous, André Alatundu, cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Je suis Matumaini Franklin de Bukavu, dans la province du sud Kivu. L'arrivée du secrétaire général de l'ONU devrait s'inscrire dans le cadre de la constatation de la violation de l'accord cadre d'Addis Abeba et tirer toutes les conséquences, car comment soutenir la matérialisation d'un accord qui n'a jamais connu un début d'exécution? Car il n'existera jamais la meilleure façon pour le secrétaire général de l'ONU de soutenir la RDC à 100% que de peser de son poids pour que la RDC retrouve la paix. Car les dollars investis par la Banque mondiale ne profiteront jamais à la RDC si ceux qui devraient en bénéficier continuent à être tués, massacrés et gelés.
Réaction à André Alatundu.
Je note que la réaction de M. Matoumaïni est en contradiction avec son nom. Son nom, c'est l'espoir, n'est-ce pas? Et la réaction qu'il donne n'est pas tout à fait fondée. On vient ici pour constater. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut incriminer et condamner le secrétaire général. Ils ont annoncé. Le secrétaire général de l'ONU et le président de la Banque mondiale ne feront pas, ne feront rien à notre place. Mais ils sont là pour nous accompagner. Si nous avons besoin des résolutions, permettez-moi de résumer ainsi les choses, ils vont nous produire les résolutions. Si nous avons besoin d'argent, au départ déjà, on met 1,5 milliard. Alors, au lieu de se chamailler, il faut déjà chercher à quoi vont servir les 1,5 milliard chez nous.
Merci André-Alain Atundu. Honorable Serge Mayamba, vous êtes député national de l'opposition et membre du groupe parlementaire UDPS-FAC à l'Assemblée.
Président du groupe parlementaire.
Ah, vous êtes président du groupe parlementaire, merci. UDPS-FAC à l'Assemblée nationale. Quelle est votre lecture à vous de la visite de ces deux personnalités en RDC?
Oui, merci beaucoup pour la question. De mon point de vue, je pense que cette visite m'a amené à comprendre la perception que la communauté internationale a de la crise dans notre pays, ainsi que la nécessité pour les Congolais de prendre véritablement leurs responsabilités si nous voulons voir cette crise connaître des fins heureuses pour les populations congolaises. Je parle de perception dans un premier temps, d'autant plus que j'ai eu à remarquer que contrairement au discours que nous avons l'habitude de tenir ici, au niveau de la communauté internationale, il y a la communauté internationale plutôt est engagée à la recherche d'une solution à cette crise du point de vue régional. Alors que ici, nous avons toujours considéré qu'il s'agissait là d'une crise entre États, jusqu'à simplifier même la teneur de la question. Et aussi, pour ce qui est du deuxième point, donc il y a eu cette nécessité manifestée par la communauté internationale de responsabiliser les Congolais, parce que au-delà du soutien que le secrétaire général des Nations Unies a apporté au déploiement de la brigade d'intervention, je crois qu'il a eu à rappeler aussi que le maintien de la sécurité et de la paix est premièrement de la responsabilité du gouvernement congolais. D'ailleurs, pour preuve, en ce qui concerne le premier point, nous avons vu que le 1 milliard dont a parlé le président de la Banque mondiale sont destinés à la région des Grands Lacs et non pas à la République démocratique du Congo, qui est, dans son état actuel, un pays victime des atrocités qui sont organisées et entretenues par des États voisins. Mais au niveau de la communauté internationale, le discours qui nous est adressé consiste à dire qu'il faut, pour nous en sortir, à ce que la solution soit recherchée de manière globale, globalisante en ce qui concerne la région des Grands Lacs.
Et vous pensez que cet argent-là devrait être destiné à la RDC seule?
Non, bon, en fait, c'est d'abord l'argent qui vient des partenaires. Ce n'est pas à nous de donner une destination à cet argent. Les partenaires soutiennent les États suivant leurs intérêts également. Mais en ce qui concerne l'argent, ce qui ne peut d'ailleurs pas faire l'objet de ces débats, je l'espère, j'ai tout simplement cru comprendre que pour les partenaires de notre République, particulièrement la Banque mondiale, il faut doter la région des Grands Lacs pour des moyens suffisants pour lui permettre de trouver des solutions aux problèmes sociaux de base, lesquels peuvent justement susciter des intérêts communs et que ces intérêts communs-là puissent nous rappeler l'intérêt que nous avons d'ailleurs à nous attacher à la paix. Nous nous souviendrons du bon moment où avait fonctionné la communauté économique des pays des Grands Lacs. Les intérêts du Rwanda, du Burundi comme de la République du Zaïre à l'époque étaient tellement communs qu'il y avait dans le chef de tous les Congolais, de tous les Rwandais, de tous les Burundais, intérêt à ce qui est la paix. Je crois que c'est dans ce sens-là que la Banque mondiale voudrait donner à tous ces États la possibilité d'initier ou d'encourager ce genre de projet.
Alors, je vous pose la même question que celle que j'ai posée tout à l'heure, André, à Tundu. Est-ce que la présence de ces deux personnalités en RDC pourrait changer quelque chose sur le terrain ou plus particulièrement à Goma, au Nord Kivu?
Oui, ben, vous savez, au-delà des aspects militaires, il y a lieu de dire qu'il y a des personnalités qui constituent des autorités morales. Je crois que la présence du secrétaire général des Nations Unies comme du président de la Banque mondiale a dans une certaine mesure joué sur les mentales de tous. Vous avez vu par exemple que les responsables politiques, particulièrement ceux qui ont la gestion de la République chez nous, ont été très contents de constater qu'ils bénéficient d'un soutien des Nations Unies. Bon, nous avons vu aussi dans une certaine mesure comment cela a joué au niveau des différents groupes engagés dans le combat, parce que même en ce qui concerne le M23, il faut le reconnaître, c'est que ce regroupement a eu à faire n'est pas que l'expression d'une volonté de vouloir atteindre un objectif bien précis, hein, tel que prendre la ville de Goma, mais le M23 a estimé qu'il était important à ce qu'il s'exprime, alors que le secrétaire général des Nations Unies est là, pour pouvoir s'affirmer. Question, bien sûr, d'attirer l'attention du secrétaire général des Nations Unies, mais aussi de dire que demain ou après-demain, au-delà de tous les espoirs que nous avons sur la question, la situation risque de demeurer telle ou risque même de s'aggraver en faisant échouer la force des Nations Unies.
Merci, Maître Serge Mayamba, professeur Philippe Bioya, politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa, et à cet auditeur qui nous écrit de Beni, il s'appelle Gérard Kazingoufou, il dit ceci: avec la souffrance et toutes sortes que nous subissons au quotidien dans les deux Kivu, au vu et au sud de la communauté internationale, je peux me permettre de douter de tous les émissaires d'où qu'ils proviennent, même de l'ONU, à partir du moment où même la présence de Ban Ki-moon n'inquiète pas les pays voisins à apporter leur soutien au M23. La thèse de la partition de notre pays semble primé. Réaction.
Non, mais je crois que il faut que les Congolais, hein, les jeunes comme les vieux, les dirigeants comme les gouvernants, fassent un effort de connaître le monde, comment il fonctionne. Parce qu'on se fait beaucoup de mal lorsque on ignore ce que sont les organisations internationales, lorsque l'on ne connaît pas le pouvoir de celui à qui on s'adresse ou sur qui on fonde les espoirs. Le président de la Banque mondiale, comme le secrétaire général des Nations Unies, sont des gens qu'il faut considérer comme des avocats. Ils n'ont pas en eux-mêmes de pouvoir. Mais s'ils comprennent la cause d'un gouvernement, s'ils constatent qu'un gouvernement est vraiment sérieux et il veut vraiment le bonheur de sa population, il veut sa paix, sa sécurité, ils peuvent bien transmettre ce qu'ils voient auprès des gouvernements du monde qui décident de ce que nous soyons en guerre ou en paix. Donc ces gens-là, il faut les considérer comme des avocats, mais ils ne sont pas des décideurs. Or, tous les Congolais ici donnent l'impression que nous sommes un pays incapable en tout point de vue et qu'il faut que les autres nous sauvent. Malheureusement, ceux à qui nous adressons n'ont pas ce pouvoir-là. Donc, je voudrais demander à mon frère-là de faire une démarche citoyenne. Le secrétaire général des Nations Unies et le président de la Banque mondiale sont venus d'abord à Kinshasa pour encourager les dirigeants de Kinshasa. Parce que même quand on lit l'accord cadre d'Addis Abeba, cet accord constate que quand chaque fois le gouvernement de Kinshasa veut faire des choses bien, les voisins cassent ça. Alors maintenant, ils veulent se mettre du côté du gouvernement de Kinshasa pour leur demander de continuer à faire les efforts qu'ils veulent faire pour que leur pays ne soit pas partitionné, pour que leur population ne souffre pas du fait des ingérences des voisins, et qu'ils veulent être des avocats du Congo auprès des puissances du monde. Mais le Congo, s'il ne fait pas des efforts dans ce sens-là, si le Congo ne compte pas des efforts, s'il croise les bras et pense que le Ban Ki-moon, comme il est venu, il va décider, Ban Ki-moon n'a pas de pouvoir. Il est le représentant de l'organisation, les décisions se prennent au Conseil de sécurité, et ce sont les représentants du gouvernement qui prennent des décisions. Donc je pense qu'il faut saluer le fait qu'il soit venu au Congo. C'est un message très fort pour montrer que ces gens-là, la communauté internationale, comprennent que le Congo-là doit exister. Le Congo doit être fort. Le Congo ne doit pas continuer à se considérer comme faible et accéder à la faiblesse. Sinon, alors là, on est parti. Parce que la plus grande faiblesse, c'est de croire que nous ne sommes plus capables.
Alors, professeur Philippe Bioéa, lors de son point de presse à Goma, le secrétaire général de l'ONU a rappelé que la responsabilité première de maintenir la paix incombe d'abord au gouvernement congolais. Mais on a l'impression que le gouvernement congolais compte beaucoup plus sur la communauté internationale qui ne vient qu'en appui à la RDC pour que la paix revienne en RDC.
Oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a un malentendu dans la communication entre le gouvernement et la communauté internationale. La communauté internationale, hein, regardez, ils sont venus avec le président de la Banque mondiale. En fait, ça signifie pas. Ça signifiait qu'ils attendaient que le gouvernement congolais, depuis qu'ils ont signé l'accord, se mette à travailler et ils regardent concrètement combien ça coûte de réformer l'armée, combien ça coûte de faire le dialogue, la réconciliation, et qu'ils introduisent des demandes auprès de la Banque mondiale ou des PNUD ou des gouvernements et des Nations unies pour dire nous voulons bien mais nous n'avons pas d'argent. Comme il n'y a pas cette anticipation et ils sont venus avec un montant d'un milliard. Donc ce sont des gestes que l'on pose pour susciter en nous des réactions. Donc il est grand temps que nous comprenions comment en fait on travaille. Et je pense que dans la réponse de Ban Ki-moon, il n'y a pas d'hypocrisie et il n'y a pas en fait d'échappatoire. C'est vraiment une réponse réelle, mais il ne dit pas que la communauté internationale ne va pas soutenir le gouvernement congolais si le gouvernement congolais veut faire maintenant son armée. Lisez la résolution 2098, il est explicitement écrit qu'ils prennent en main le président de la République qui a dit que la réforme de l'armée c'est la priorité des priorités et il lui suggère qu'en ayant une année, que la RDC mette en place une brigade d'intervention rapide qui pourra remplacer la brigade des Nations Unies. Mais nous voulons qu'on déploie la brigade des Nations Unies. C'est-à-dire qu'ils vont déployer la brigade des Nations Unies pour nous permettre à nous de construire bien notre armée, de résoudre toutes les contradictions sur notre armée. Il y a des troupes, il y a des problèmes de commandement. On pense que d'ici une année, nous allons mettre de l'ordre dans tout ça.
Alors, professeur, il y a cette autre réaction de maître David Mambo de Bunion, province orientale, qui dit ceci. La visite du secrétaire général de l'ONU est effectuée dans le but de voir les dirigeants de la CIRGL joindre leurs actes à leurs paroles et la matérialisation immédiate de l'accord cadre d'Addis Abeba, dans la mesure où ces derniers savent à quel point les dirigeants de la sous-région des Grands Lacs en général, et plus particulièrement ceux de la RDC, se distinguent souvent dans le non-respect de leurs engagements. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que cette visite puisse arriver à faire taire les armes sans la moindre cohésion nationale.
Non, mais n'inversons pas le terme. Hein. Regardez, si le secrétaire général n'avait pas annoncé sa visite, on n'aurait peut-être pas eu les mécanismes internes de la mise en œuvre de l'accord, on n'aurait pas connu les animateurs. Mais voilà, puisqu'ils sont venus, et parce qu'il ne fallait pas qu'ils rentrent en nous trouvant vides, il y a eu quelque chose qui s'est fait. Donc c'est positif. Donc je pense que comme nous avons commencé déjà à poser des actes, et comme ils sont venus, ils ont parlé au président en aparté, on ne sait pas de quoi ils ont parlé. Ils ont parlé au premier ministre en aparté. Ils sont allés au Sénat pour demander comment le Sénat peut s'impliquer. C'est que ces gens-là ne veulent pas que cet accord échoue. C'est ça qu'il faut savoir. Ban Ki-moon, c'est lui qui a initié l'accord, et il veut vraiment jouer son honneur et sa personnalité. Alors il ne faut pas que nous décourageons Ban Ki-moon et que nous perdions dans des conjectures qui ne nous aident pas. Le pays, le Congo, nous appartient à nous, Congolais, ça n'appartient pas aux Nations Unies.
Merci, professeur André-Alain Tundu. La réforme de l'armée, la priorité de priorité. Est-ce que d'ici une année, on pourra parachever cette réforme de l'armée? Est-ce que c'est possible? C'est faisable?
Ça dépend des objectifs visés. S'il s'agit de créer une culture nouvelle, une année, c'est trop vite arrivé. Là, il faudrait attendre. Peut-être cette première année va nous permettre d'implanter. Heureusement qu'il y a déjà la réforme qui est en marche. Hein. Depuis un certain temps, on parle de réforme de l'armée, de réforme de sécurité. Malheureusement, on ne peut qu'en parler de cette façon-là parce qu'il s'agit des sujets délicats, des sujets de secret défense. Donc il faut espérer que les autorités politiques du pays feront le nécessaire pour que nous ayons dans les meilleurs délais une troupe d'intervention qui soit capable de remplacer, comme le dit l'accord, la brigade internationale. Ça, c'est important. Et je retiens que le professeur a dit quelque chose d'important. C'est à nous, les Congolais, d'agir, de capitaliser cet effort. Je vois, par exemple, dans cet accord, on parle de la crise récente offre la possibilité de s'atteler aux causes profondes du conflit. Mais quelles sont les causes profondes? C'est les origines. Les origines, ce n'est pas aujourd'hui. C'est d'abord l'incompatibilité ethnopolitique dans certains pays, notamment le Rwanda, d'où il faut faire un dialogue interne pour absorber cette incompatibilité. C'est la politique hégémonique de certains pays avec une vision prédatrice sur nous, d'où la nécessité de coordonner dans un effort régional l'intégration économique. C'est la cupidité politico-économique de certains acteurs. N'est-ce pas? Beaucoup de Congolais pensent qu'en vendant du coltan à Rwanda, eh bien, ils seront demain le chef. Alors, il faut qu'il y ait un effort de réalisme politique, mais il y a aussi la complicité de la communauté internationale. Donc, il faut, comme l'a dit l'accord, que le tout se fasse de bonne foi. Voilà les causes profondes, l'origine. Mais au-delà, il y a quelques causes, des causes immédiates, notamment l'effondrement du régime Habyarimana et du régime Mobutu. Et puis, il y a l'ambition hégémonique du président Kagame. Ça, ce sont des éléments immédiats. Comment les résoudre? À part par le dialogue, par la bonne foi et en
réalisant... Le dialogue entre les États de la sous-région.
Entre les États de la sous-région, à l'intérieur des États de la sous-région. Parce que c'est un problème. Tout à l'heure... Je crois que c'est l'honorable qui a semblé dire que le problème de sécurité ne pouvait intéresser que le Congo. Non. Nous vivons dans une sous-région. La frontière, c'est le facteur de contact avec les voisins. D'où la sécurité est une préoccupation commune. Si nous ne sommes pas en sécurité, eh bien nous touchons nécessairement nos voisins. S'ils ne le sont pas, ils font de même. D'où il faut que nous puissions coordonner nos politiques pour que les mesures de sécurité soient réciproques, qu'il y ait une obligation réciproque de veiller l'un à l'autre et l'un pour l'autre.
Mais à quoi aura servi la CIRGL, André Alain Tundu?
La CIRGL fait partie de cette dynamique de prise de conscience de la complémentarité nécessaire, ou même de la synergie nécessaire.
On a l'impression qu'elle n'a pas ou elle ne joue pas bien son rôle.
Non, la CIRGL ne joue pas tout seul. Il y a déjà la CPGL, il y a l'Union africaine, il y a la communauté internationale, l'ONU, et sachez que la CIRGL, c'est plusieurs étapes. On a commencé par Dar es Salaam, Nairobi, et puis maintenant, il y a des structures. Donc, il faut que la CIRGL s'intègre dans la vision générale de la communauté internationale. Et je crois que c'est ce qui se fait. La CIRGL a toute sa place dans la recherche d'une solution durable dans notre sous-région, parce que ce sont les pays de la sous-région et les grands acteurs, certains grands acteurs de la politique internationale.
Merci André Alain Tundu. Maître Serge Mayambaya, Michel qui nous écrit de Kinshasa, il dit ceci: la solution au problème du Congo n'est pas dans les visites ou dans les dents des grandes personnalités. Il faut que les Congolais se prennent en charge. Tonton Ekonda Kachilumbujima au Kassai Oriental, malgré l'arrivée de Ban Ki-moon à Goma, il n'y a pas une volonté manifeste de la part du gouvernement de mettre en pratique l'accord cadre d'Addis Abeba, peut-être parce qu'il est à leur défaveur.
Oui, bon, merci beaucoup. Je remercie les auditeurs qui ont écrit. Ben, je crois que c'est des réactions tout à fait justifiées, parce que je crois que il est tout à fait normal que la population attende d'un gouvernement des solutions aux problèmes qui se posent, mais tant que ça tardera du côté de la population, il y a risque de considérer les efforts fournis par le gouvernement comme insuffisants ou même inexistants. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'au début de l'émission, j'ai dit qu'il y avait une perception de la communauté internationale à deux niveaux. Perception de la crise. Le deuxième niveau, c'est celui de la responsabilité des Congolais. Et dans la responsabilité des Congolais, il y a lieu de souligner la responsabilité de ceux qui peuvent agir pour que le pays sorte de cette situation. Mais tout à l'heure, je voudrais aussi rectifier ce qu'a dit M. Atundu. Je n'ai pas dit que la question de sécurité n'est concernée que le pays. J'ai parlé de la perception que la communauté internationale a de cette crise. D'ailleurs, c'est à l'occasion que j'ai donné la vision que cette communauté se fait sur le fait que cette crise doit être résolue en termes de la région, la région des Grands Lacs. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de tout commentaire que nous pouvons faire, il y a lieu également pour nous de reconnaître beaucoup de faiblesses dans le chef du gouvernement congolais, qui semble ne pas fournir énormément d'efforts pour amener les autres États à comprendre que de la paix au Congo dépendra également la paix dans leurs États, et qui ne cherchent pas à s'impliquer véritablement dans les vraies raisons qui poussent ces États à agir contre notre République. Il y a un phénomène...
Mais vous, parlementaire, vous pouvez aider le gouvernement dans ce sens-là.
Oui, ben on ne peut aider que celui qui veut être aidé. Vous voyez souvent quelle est la perception des ministres lorsqu'ils passent au Parlement. Déjà pour l'accord cadre d'Addis Abeba, le Parlement a été saisi plus de deux mois après la signature de cet accord. C'est déjà là une absence des considérations à cette institution qui pourtant a un rôle à jouer dans la signature des traités et accords internationaux, par exemple. Donc si déjà un gouvernement est capable de ne pas considérer de manière traditionnelle une assemblée comme le Parlement, donc de là il faut comprendre.
Est-ce que la diplomatie parlementaire est active, Maître Mayamba?
Bon, la diplomatie parlementaire, là encore, c'est la question. Je suis de ceux qui pensent que la diplomatie parlementaire n'est que complémentaire. Mais il y a les acteurs de premier plan qui est le ministre des Affaires étrangères ainsi que tous ses services. Donc il faut qu'à ce niveau-là, le vrai travail se fasse. Moi, je pense aussi que la vraie diplomatie peut se faire en ce que moi j'appelle la diplomatie militaire. Est-ce que nous disposons aujourd'hui d'une armée dissuasive? Est-ce que nous disposons aujourd'hui d'une politique à même de faire en sorte que cette armée que nous souhaiterons bien avoir plus tard arrive? Je ne pense pas. Par rapport à l'Est aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de l'arrivée de la brigade d'intervention. Mais il y a un problème qui doit être résolu et que ce problème à ce jour, à mon point de vue bien sûr, n'attire pas l'attention de beaucoup de gens. Il existe parmi les groupes armés à l'Est, des groupes qui travaillent pour la défense de la République, des groupes qui protègent les intérêts des populations autochtones. Est-ce qu'il y a eu déjà des mécanismes pour voir comment impliquer ces groupes-là dans le renforcement de des capacités de notre armée? Parce que ce sont des groupes qui finalement se sont imposés à l'Est et qui sont devenus presque incontournables. Est-ce qu'on a déjà réfléchi pour voir quels vont être les comportements de ces groupes lors de l'arrivée des brigades, de la brigade d'intervention? Parce que la brigade d'intervention pourra par exemple occuper la zone frontalière, hein, jusqu'à empêcher les incursions étrangères. Mais sur le plan interne, il y a des problèmes qui risquent de se poser. Donc voilà ce qui rejoint ce que nous avons toujours dit. Il faut une vraie responsabilité dans le chef de ceux qui doivent agir pour que nous puissions aboutir à une bonne solution.
Merci Maître Serge Mayamba, professeur en BioEA. Il faut une vraie, comment vous l'avez dit, une vraie responsabilité de ceux qui dirigent ce pays, ceux qui doivent mettre en œuvre l'accord cadre d'Addis Abeba.
Oui, je vais commencer peut-être par là où l'honorable Mayamba a terminé là. Et je crois qu'ici, hein, il faut simplifier la chose, il faut se montrer patriote et nationaliste. Il faut aimer vraiment son pays. On aime son pays en coopérant d'abord à une solution que nous considérons tous comme prioritaire. C'est quoi? Améliorer à la fois l'image de notre pays à l'extérieur et donner la preuve que nous sommes des conscients, des hommes conscients et des hommes responsables. Et cette conscience, ce devoir de conscience, de responsabilité, est liée à la qualité du politique. Donc, on n'est pas, lorsqu'on veut sauver la nation, opposant ou majorité. Ça ne doit pas jouer. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que voici, en fait, le chemin que je voudrais que cela présente. Que tous les politiques commencent par savoir que le gouvernement, de façon générale, implique quoi? Implique l'engagement de tous les politiciens qui sont dans les institutions comme ils ne sont pas dans les institutions. Parce que l'exécutif, le législatif et le judiciaire font partie, en général, comme on dit en Amérique, du gouvernement. Il faut avoir une conception élargie du gouvernement. Nous devons tous agir, d'abord, pour que nous sauvions ce qui est le fondamental, le pays. Et nous devons lier les règlements des questions des ambitions. Les questions de la cohésion nationale, si elle ne se pose pas pour soutenir, en fait, le poids des institutions et de ceux qui les dirigent, je crois que là, nous ferons fausse route. La communauté internationale est venue à nous pour nous dire de regarder, en fait, le temps. Ils comprennent que les choses sont en train de changer. On revient à la RDC. Il y a longtemps, ça va faire presque 20 ans, on ne se souciait pas de la RDC. Mais quand on fait, le secrétaire général fait un accord en disant priorité, c'est la RDC. Même si on nous demande de faire 20 choses, ce qu'on appelle les engagements nationaux, on ne le demande pas à Kabila, on ne demande pas à Matata, on demande ça à tous les Congolais, surtout à tous les partis politiques, ceux qui veulent faire la politique, parce qu'il faut que le Congo sorte pour que la politique se fasse. Alors, si nous priorisons ainsi les politiques, si chacun des partis politiques prend à cœur le fait que les mauvaises images du Congo, c'est aussi les mauvaises images de sa capacité à diriger l'avenir, je crois que nous avons déjà fait un pari et nous pourrons, en fait, être crédibles au regard de tout le monde.
Merci professeur. André Alain Atundu, toujours lors de son séjour à Kinshasa, Ban Ki-moon a demandé aux autorités, au gouvernement congolais, de reprendre les accords, les pourparlers de Kampala.
Je crois que c'est tout à fait normal. Hein. Lorsqu'on veut mettre fin aux hostilités, il faut savoir répondre, il faut savoir parler à l'autre. Mais ceci ne lave pas des crimes imprescriptibles. Donc le pourparler de Kampala ont un objectif, c'est de mettre fin aux hostilités.
Mais ces pourparlers ont quand même montré leur faiblesse.
Et de les ramener dans la légalité républicaine. Alors lorsqu'on vous rentrez dans la légalité républicaine, vous devez répondre des actes qui mettent en mal cette légalité. Donc ça n'a rien à voir, parce que l'opinion généralement pense que quand on va à Kampala, c'est pour... on va à Kanosa. Non, on ne va pas à Kanosa. Non, ça c'est très important. Alors je voudrais en profiter pour répondre quand même ou donner une précision sur ce que l'honorable a dit. Le gouvernement congolais ne fait pas assez d'efforts pour sensibiliser les autres États. Je serais de son avis s'il n'y avait pas eu toutes ces résolutions des Nations Unies, s'il n'y avait pas eu cet accord cadre. C'est l'expression de la vivacité et presque de l'agitation de notre diplomatie. Sensibiliser les uns, aidez-nous à faire ceci, faites cela, eh bien, il y a des États qui ont même pris l'initiative de proposer. Donc le gouvernement fait un effort. Il faut, comme l'a dit le professeur, nous ne devons pas passer notre temps à dire que notre gouvernement fait rien. Le gouvernement fait des choses. S'il manque des choses, eh bien, complétons-les. Alors, deuxièmement, à propos du contrat ou du traité, mais chaque institution a son rôle et son moment d'intervenir. Le gouvernement négocie, signe, et le Parlement, à un moment, lorsque le gouvernement a négocié et signé, le Parlement veille ou vérifie la conformité aux intérêts bien compris. Donc il n'y a pas de confusion. Le gouvernement, en principe, le Parlement ne peut pas participer aux négociations parce qu'il lui appartient de contrôler. Donc il ne peut pas être
juge de partie. Mais le Parlement doit être quand même au courant.
Mais oui, en son temps. Lorsque nous allons négocier, par exemple, quelque chose, mais le gouvernement n'a qu'à attendre. Tiens, on verra si c'est à la fin. Mais pas s'impliquer dès le départ.
Réaction, honorable Serge.
Oui, merci beaucoup. Là, je crois que c'est minimiser justement le rôle du Parlement. Voilà pourquoi j'ai réagi tout à l'heure à votre question en me demandant, mais c'est après combien de temps que le Parlement a été saisi? Moi, je pense que nous devons également éviter cette vision, parce que même s'il est vrai qu'il faut qu'il y ait l'implication de tous les acteurs, hein, pour que nous puissions trouver une solution, la question, bien sûr, aujourd'hui nous fait souffrir tous. Il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de tenants du pouvoir en ce qui concerne la crise, bien sûr, mais il faut un minimum de sincérité et de volonté, comme cela est recherché d'ailleurs en ce qui concerne l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba. Donc vous ne pouvez pas avoir à faire confiance à un gouvernement, bon, qui passe outre les prescrits de la Constitution, qui estime que le Parlement peut être informé, bon, une année après que les choses aient échoué. Non, moi je pense qu'il faut, pour qu'il y ait implication de tout le monde, cette nécessité de faire en sorte que non seulement les institutions, mais également les regroupements de la République, là je parle de société civile comme regroupement politique, soient impliqués dans la recherche de solutions. Donc je crois que si le gouvernement de Kinshasa avait agi de la sorte, il n'y aurait pas toutes ces critiques, et l'implication des uns et des autres recherchés n'aurait même pas été recherchée, parce que les gens se seraient considérés comme véritables acteurs de la recherche de solutions à cette crise.
Alors, il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Professeur Philippe Bioya, Jires Mouiyo Antoine dit ceci: la visite du secrétaire général de l'ONU n'apportera rien en ce qui concerne la guerre dans l'est de la RDC. C'est à nous, Congolais, de créer des plans d'action pour mettre fin à ces hostilités dans l'est. On est capable de quelque chose. Professeur.
Je vais vous donner une réponse quelque peu surprenante, brutale, hein. Tu vois, les Rwandais avec l'M23 ont réagi à la visite du secrétaire général en nous agressant. Notre armée a fait des progrès, les a repoussés. Moi, si vous demandez mon avis, notre armée doit continuer à marcher même jusqu'à entrer au Rwanda. Comme ça, les Rwandais nous craindront. Et en ce moment, la communauté internationale interviendra très bien. Quand nous sommes faibles, la communauté internationale ne nous donnera pas la force.
Et en guise de conclusion, professeur?
En guise de conclusion, je crois qu'il faut que nous soyons positifs et que nous comprenions que la communauté internationale maintenant est avec nous. La communauté internationale n'est pas avec ce que nous croyons, nous craignons. Alors nous risquons de décourager la communauté internationale et je ne voudrais pas que cela arrive.
Merci, professeur Philippe Bioya. André Alain Tundou, un mot en guise de conclusion.
Au lieu de nous chamailler, cherchons les moyens de capitaliser cet engagement de la communauté internationale à nos côtés, cet engagement à nous accompagner. Et nous devons capitaliser la présence de ces deux éminentes personnalités pour passer nos messages. Comme l'a dit le professeur, ce sont des avocats, non seulement auprès des grands de ce monde, mais auprès des acteurs. Donc il nous faut, n'est-ce pas, capitaliser leur présence pour sauvegarder les intérêts bien compris de notre République, afin d'aboutir finalement non seulement à la fin de l'hostilité, mais à l'instauration d'une paix durable et au développement économique.
Merci André Alain Tundou. Maître Serge Mayamba.
Oui, merci beaucoup. Je crois que nous ne trouverons de solution à cette question des guerres que si nous touchons le fond de la plaie, c'est-à-dire aller véritablement vers le problème. Tout à l'heure, Monsieur Atundu a rappelé les visées hégémonistes de certains États. Moi, je crois que c'est vers ces États qu'il faut aller, au lieu de continuer avec l'exercice du genre Kampala, parce qu'on pourra résoudre le problème du M23, mais la volonté d'une intégration forcer de certains peuples des États voisins dans notre République ne va pas s'arrêter. La volonté des États comme le Rwanda à pouvoir dominer la République démocratique du Congo ne va pas s'arrêter. Je crois qu'il faut aller vers ces États-là, merci, vers ce genre de solution, si nous voulons obtenir un bon résultat.
Merci, Maître Serge Mayamba. C'est la fin de cette émission. Merci à Guy Maté, qui était à la réalisation assistée de Samuel Kachak. Merci à Pili Kipelamundo, qui était à la supervision. Alain Goy était à la mise en onde au micro auquel il écoutait. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonsoir chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.